Je ne sais pas ce qu'il faut dire pour me présenter, mais je suis heureux de partager ce temps avec vous. Je suis d'une autre église du pays de Montbéliard, une église sœur et amie, l'église de la Prairie. Je suis médecin. Je suis aussi un membre de l'équipe pastorale de cette église. Je pense que c'est cette double casquette qui fait que vous m'avez demandé de parler de ce sujet. J'avoue, quand on m'a invité pour ça, j'avais pas trop envie, parce que la souffrance, je ne sais pas comment vous êtes, mais on n'a pas forcément envie d'en parler. Ça fait partie tellement de notre vie courante, on a des fois envie de penser à autre chose, de s'évader sur autre chose. Mais malheureusement, ce sont des questions qui sont pour nous un petit peu éternelles, et que l'homme se pose, je crois, depuis la nuit des temps. Et vous m'avez posé cette question, si Dieu existe, pourquoi la souffrance ? Ce peut être la principale réponse qui est faite quand on parle de Dieu. S'il existe, pourquoi est-ce qu'il permet ça ? Alors, j'aurais pu vous donner plein de statistiques de toutes sortes sur la souffrance. Tu dis que ce n'était pas très utile, on en entend assez à la télé. J'aimerais juste vous dire quelques exemples de ces dernières semaines, et c'est quelques exemples. Cet arrière-grand-père qui vient me voir le mois dernier, car son petit-fils de 5 ans a un cancer généralisé, et les yeux pleins de larmes, il me dit, il y a un mois on jouait ensemble dans la piscine au ballon, et tout allait bien. Cette maman qui perd sa fille, qui a moins de 40 ans, qui laisse deux orphelins. Ce bébé de 15 mois qui meurt de convulsions fébriles. Ce couple qui divorce et détruit sa famille. Cet homme qui rabaisse sa femme et la tient sous sa colère. Cette jeune femme brillante qui est tombée dans une psychose et a tout perdu, enfant, mari, travail. Ça, c'est quelques exemples de ce que j'ai pu voir ces dernières semaines. Mais la Bible elle-même regorge de textes sur la souffrance. Il y en a partout. Je vous en cite juste un. C'est le psaume 36, psaume de David. David était un roi en Israël. Et il dit, je vous prends juste un extrait, « Triste, accablé, abattu, tout roi qu'il était, hein. Je me traîne tout le jour. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. » Alors je vais vous dire une chose. Je hais la souffrance. Je hais le mal comme il s'exerce dans ce monde. Par moments, j'ai envie de crier contre l'injustice et la souffrance. Je sais que je ne suis pas seul quand je dis ça, parce que je sais que le Dieu auquel on croit, le Dieu de la Bible, hait encore plus que moi la souffrance. Et dans la Bible, il est dit que, par exemple, il ne supporte pas l'injustice de celui qui profite de la situation parce qu'il est plus fort pour écraser un plus faible. Il est dit que Jésus, devant la tombe de son ami Lazare, pleure. Ou bien il est dit que Dieu considère la mort comme une ennemie. Et il dit que ça sera le dernier ennemi qui sera vaincu. Dieu hait la souffrance. La souffrance est... Plus largement, le mal, je crois, est un problème, un vrai problème pour notre foi. Il ne faut pas se voiler la face. Comment Dieu peut-il exister quand on voit le mal qui est commis ? C'est une vraie question. Elie Wiesel, issu d'une famille juive, est déporté en 1944 à Auschwitz, puis Buchenwald. Et dans un très beau livre, La Nuit, il écrit « Jamais je n'oublierai cette nuit ». la première nuit de Caen qui a fait de ma vie une nuit longue est cette fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont je vis les corps se transformer en volutes de fumée sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Certains avec Elie Wiesel, au passage j'aime bien les livres d'Elie Wiesel, diront face à tant de mal, Dieu ne peut pas exister. Mais la question que je nous pose cet après-midi, c'est d'où vient la notion du bien et du mal ? Nous sommes pour certains un amas d'atomes et de molécules, mais les molécules ne connaissent pas l'amour, ne connaissent pas la beauté, ne connaissent pas la bonté, ne connaissent pas la liberté, ne connaissent pas le bien, ne connaissent pas le mal. Comment des molécules peuvent dire qu'il faut aimer son prochain ou lui porter secours ? Comment est-ce qu'on est passé des atomes à l'éthique ? Ou des molécules à la morale. Certains vont dire que c'est subjectif, c'est culturel, mais quelle culture peut soutenir que brûler des enfants dans des fours crématoires parce qu'ils sont juifs, c'est bien. Aucune culture dans le monde ne soutiendra jamais ça. Quelle culture peut accepter le viol, le meurtre, ou tout simplement la tromperie, l'injustice économique ? Dans tous les pays, la conscience du bien et du mal existe, avec des variantes. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Asie. Vous savez, les variantes sont petites. Et les notions de bien ou de mal sont globalement les mêmes. On se rejoint sur l'essentiel. Alors ma question, c'est d'où vient cette conscience universelle ? Les arguments moraux, les sentiments de justice, d'injustice, indique pour moi qu'il y a une norme morale qui transcende tout cela, qui transforme tout ça, qui passe au travers de tout cela. En dehors de Dieu, où trouver une justification, une explication de la conscience ? Comment expliquer cette sorte de guide universel ? Alors certains ont émis des hypothèses, ils ont dit c'est la nature. Mais la nature, elle est neutre. Elle n'a pas de valeur morale. Certains ont dit que c'est le choix personnel. Il ne peut pas suffire le choix personnel parce qu'on voit des hommes qui sont capables de tout justifier. D'autres ont dit que c'est la société. Mais la société, c'est un amalgame d'individus. Et de plus, on devrait trouver des consciences du bien et du mal très différentes d'une culture à l'autre, d'une société à l'autre. Mais on retrouve globalement la même conscience. Alors, nous nous retrouvons avec cette question qui prend à contre-pied la question du départ. Et cette question, c'est est-ce que l'existence du mal n'est pas au contraire là pour nous prouver que Dieu existe ? Je le dis autrement. Est-ce que la conscience du bien, dans un monde où le mal abonde, ne prouve pas Dieu ? D'où vient cette conscience du bien ? Et je crois vraiment que l'existence du mal et l'existence du bien nous prouvent l'existence de Satan et l'existence de Dieu. Quand un enfant tombe et se fait mal, il vient en pleurant vers son père. Son père va se précipiter, il va le prendre dans ses bras, il va souffler sur sa plaie, il va soigner sa plaie, il va le consoler. Est-ce que son père est responsable de sa douleur ? Est-ce que c'est la faute de son père s'il est tombé ? Est-ce que l'enfant va accuser son père de l'avoir laissé le tomber et lui dire « Pourquoi n'es-tu pas intervenu ? L'enfant sait que son père l'aime. Elle veut l'aider. Alors, cet après-midi, j'ai pas à cœur de vous donner plein d'explications sur l'origine de la souffrance, l'origine du mal, car je crois qu'aucune n'explique tout. Et je crois que nous sommes très vite devant une sorte de fosse, de trou noir, qui s'appelle pourquoi. Mais j'aimerais plutôt vous parler du comment. Comment Dieu a répondu au mal. Nous avons le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, créateur de toutes choses, qui un jour a décidé de vivre notre souffrance. C'est parce que Dieu est souverain que sa souffrance est incroyable. Elle est juste impensable. Il pouvait rester dans son ciel, bien à l'abri, et nous laisser nous dépatouiller avec nos problèmes. Il a choisi de descendre et de vivre et de souffrir et de mourir avec nous. C'est tout juste incroyable. Sa souffrance est un acte volontaire. C'est Jésus qui le dit lui-même. « Je donne ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Vous trouverez ça dans l'évangile de Jean. Son agonie sur la croix, vu comme cela peut nous toucher, car Dieu lui-même a été blessé à mort par le mal. Vous connaissez peut-être Albert Camus, il dit dans un de ses livres, dans un de ses essais, « La nuit de Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ses ténèbres, la divinité, et il parle dans un autre, juste un peu plus haut, du Dieu homme-Christ, hein, donc la divinité ou le Christ, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse et la mort. » Camus lui-même dit, pour lui, dit, c'est tellement incroyable, cette histoire. D'un Dieu qui vient et s'incarne jusqu'à participer au pire du pire qui puisse nous arriver. Parce que Dieu souffre, et parce qu'il est à la fois souverain, nous savons que notre souffrance a toujours un sens, même si nous ne le connaissons pas. Nous pouvons lui faire confiance, juste sans comprendre. Et nous sommes appelés à le faire. Si vous avez un enfant qui a 5-6 ans, et qui dit « Papa, je t'obéirai seulement si tu me dis pourquoi je dois le faire. » Son père va lui dire « Si tu m'obéis seulement parce que cela a un sens pour toi, ce n'est pas de l'obéissance. Tu me donnes seulement ton accord. » Tu as 6 ans, je suis ton père, j'en ai 30, et je crois qu'il y a beaucoup de raisons que tu ne peux pas comprendre. Fais juste confiance à ton père. L'enfant fait confiance car il sait que son père sait de quoi il parle. Et nous pouvons faire confiance à Dieu, parce que nous avons un Dieu qui sait de quoi il parle quand il parle de souffrance. À la croix, le mal va carrément imploser. Si le mal avait simplement été un être extérieur, par exemple, prenons le pire qu'on puisse imaginer, Satan, il aurait suffi de le détruire. Si le mal, c'était simplement des mauvaises actions, il aurait suffi d'avoir des bonnes règles de vie, et puis on aurait corrigé ça. Mais le mal s'est profondément enraciné dans le monde. Tout est corrompu, comme un virus qui aurait tout pollué. On nous a promis, depuis le belle lurette, un nouvel ordre mondial. Plus de guerre. Alors on a créé, au début du XXe siècle, la Société des Nations. C'était après la guerre de 14-18. Ça n'a pas marché. Et puis on a créé l'ONU. Ça n'a pas marché. Puis on a créé l'Europe pour qu'il y ait la paix. Ça a du mal de marcher. Entre-temps, on a fait la fin de la guerre froide. On nous a dit qu'à partir de là, c'était fini, plus de guerre. Et on attend toujours. Il ne suffit pas d'arracher une mauvaise herbe. Il faut arracher toutes les racines qui sont en dessous. À la croix, la liste du mal qui était commis est incroyable. Le mal qui était commis contre Jésus, c'est quelque chose d'unique, c'est de la lâcheté, c'est du mensonge, la trahison, c'est de l'intérêt personnel, c'est du nationalisme, du racisme, c'est les institutions religieuses et politiques qui sont corrompues. Et derrière, Satan, qui vient rentrer dans le cœur de Judas, un des disciples, quand il est en train de partager le pain de la communion avec Jésus. Tout s'accumulé. À la croix, pour la première fois, le mal est retourné contre lui-même. Calvin, le réformateur, dit « À la croix, la destruction a été détruite, le tourment tourmenté, la damnation damnée, l'enfer enferré, la mort morte, etc. » Il continue comme ça. Mais à la croix, le mal est annihilé, est combattu par le mal, comme un contre-feu qui est allumé pour arrêter un incendie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est beaucoup utilisé en Afrique. Quand il y a des grands incendies, on allume un contre-feu. C'est-à-dire, on regarde où va le vent, et on allume un feu bien en avance du feu, dans la direction où va le feu. Et ce feu est prévu pour supprimer tout combustible, toute herbe, tout buisson, tout ce qui pourrait alimenter le feu qui va arriver. Alors ça paraît bizarre, hein. Et Jésus, un peu comme ça, il a pris tout le mal sur ses épaules. Il n'y a plus de combustible. Mais ce qui fait son originalité à ce contre-feu, c'est qu'il supprime aussi tout l'oxygène. En brûlant, il consomme l'oxygène et quand le feu arrive, il n'y a plus assez d'oxygène pour se développer et ils vont s'éteindre l'un contre l'autre. En forçant à la croix le mal à commettre le péché des péchés, si j'ose dire, le meurtre du Fils de Dieu, Dieu va porter son amour au maximum. Dans Jean 15, il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Dieu, dans son amour, va utiliser le mal de la croix pour nettoyer les racines du mal, priver de son oxygène le mal, privé de son combustible, et pour faire surgir l'opposé, le courage de Jésus, la fidélité, le sacrifice désintéressé, le pardon et tout simplement l'amour. La croix est un acte d'amour, mais aussi un acte de justice parce que quelqu'un a payé pour le mal commis. Et je dirais que la croix, c'est aussi une espérance. Dans le psaume que je vous ai lu tout à l'heure, psaume de désespoir de David, on voit pointer une espérance. Juste après ce que je vous ai lu, David dit « En toi, Éternel, malgré tout mon désespoir, en toi, Éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur mon Dieu. » Et la croix permet de passer du désespoir à l'espoir. Alors, Elie Wiesel, je vous l'ai lu tout à l'heure, rester dans le désespoir et mort dans ce désespoir, sans solution. Il dit, je vous rappelle ces phrases, « Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu. » Je voudrais parler d'un autre homme beaucoup moins connu, il s'appelle Christian Reger. Il était pasteur, il était dans le camp de Dachau. Et pendant des années, il a arpenté le camp de Dachau à la rencontre des visiteurs, bien après la guerre. Il a vécu dans ce camp des moments atroces. Mais derrière ses souvenirs, il allait plus loin avec les visiteurs. Il leur racontait comment le Dieu d'amour l'avait visité. Tout au début, l'arrivée dans le camp était très compliquée. Et il n'arrivait pas à placer sa confiance dans un Dieu d'amour, vu toutes les atrocités qu'il voyait. Mais en juillet 1941, se produisit un événement qui allait tout remettre en question. Il reçoit une lettre de sa femme avec une référence biblique qui parlait du discours de Pierre à la sortie, Pierre l'apôtre, hein, à la sortie de prison. On retrouve ça dans les Actes des apôtres, dans la Bible. Je vous donne un extrait de ce discours qui était dans la lettre de sa femme. « Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués. ensemble contre le Seigneur. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alors, ils comprenaient bien que les nazis s'étaient ligués ensemble pour les faire souffrir. Ils voyaient le rapport de ce texte avec sa situation. Il devait subir à ce moment-là un interrogatoire effrayant. On allait lui demander le nom d'autres chrétiens du camp pour les arrêter. Il redoutait les coups de matraque et les tortures à l'électricité. Et les versets qu'il lisait ne lui apportaient pas grand-chose. Alors qu'il se dirigeait en tremblant vers la salle d'interrogatoire, la porte s'ouvrit sur un collègue pasteur qu'il n'avait jamais rencontré. Sans lever les yeux et totalement impassible, cet homme se dirigea vers lui et d'un geste tout aussi impassible, il lui mit la main dans sa poche et lui déposa quelque chose dans la poche et continua sa route. Il n'eut pas le temps de regarder ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, les SS arrivèrent et l'emmenèrent dans la salle d'interrogatoire. À sa grande surprise, les questions étaient simples. On lui demanda de dénoncer personne. Il n'y eut pas de torture. Et en rentrant dans son baraquement, il se souvint du mot dans sa poche qu'il retrouva, une petite boîte d'allumettes et se dit « au moins, des allumettes, ça peut me servir ». Mais à l'intérieur, il trouva un papier plié. Et sur ce papier, une référence. Le même passage qu'il avait reçu de sa femme le matin même, par lettre. Un message de Dieu. Un message de Dieu envoyé le même jour, un le matin, l'autre l'après-midi, par deux canaux qui ne pouvaient pas se connaître. Un message de Dieu pour lui dire « Je suis là ». Et Christian Reger dit, je vous le cite, « Dieu ne m'avait pas secouru pour rendre ma souffrance plus légère. Simplement, il m'avait prouvé qu'il était toujours vivant et qu'il savait que j'étais là. Alors, nous nous sommes rassemblés entre chrétiens pour former une église. D'autres se sont détournés de Dieu à cause de Dachau. Qui suis-je pour les juger? Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'y a rencontré. Pour moi, il s'est révélé comme le Dieu suffisant, même à Dachau. » Les problèmes ne disparaissent pas avec Dieu. La souffrance ne disparaît pas avec Dieu. Mais Dieu remplace la brûlure du chagrin par l'espérance. En fait, il n'y a pas de réponse véritable au pourquoi face à la souffrance. Mais face à ceux qui, derrière la souffrance, n'ont que le vide et l'abîme, la foi de Dieu de la Bible propose une espérance. Le Dieu de la Bible propose un chemin à faire avec Jésus. Alors j'ai croisé des gens qui s'enferment dans la souffrance et refusent à Jésus la possibilité de cheminer avec eux. Je vous ai pris au départ 5-6 exemples qui me sont venus, les premiers qui sont venus à ma tête. Et parmi ces exemples, je dirais que la moitié sont tournés vers Dieu et l'autre moitié a refusé la proposition de Dieu. J'en ai vu qui ont saisi la main, et d'autres qui ont traversé la souffrance avec lui, et d'autres qui ont refusé cette main. La croix ne donne pas une réponse au mal. Elle ne donne pas une réponse à tous nos pourquoi, pardon, mais elle donne une réponse au mal. Grâce à la croix, Jésus peut se tenir à nos côtés. Grâce à la croix, il comprend ce que nous vivons. Grâce à la croix, il peut dire « Je suis là, je t'accompagne ». Il est dit dans un autre passage de la Bible, chez un prophète qui s'appelle Ésaïe, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » En nous, et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions ou nos fautes, brisé à cause de nos fautes. Grâce à la croix, pour la première fois, le mal a été vaincu par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus. Ainsi, il nous a donné une espérance nouvelle. Dans Isaïe 53, 5, il est dit, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Jésus était puni, était brisé pour que nous recevions la paix. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il nous offre, ça c'est le beau message de la foi, il nous offre sa paix dans la souffrance. Il nous offre une guérison, une restauration de notre relation avec Dieu pour ne pas traverser seul la souffrance. Il nous redonne un sens dans notre vie. Et ça, c'est l'expérience de millions de chrétiens. Alors, c'est vrai que c'est une réponse partielle. Je vous ai dit que le mal avait implosé à la croix. C'est une réponse partielle qui attend sa réponse définitive. Cette réponse définitive sera complète au retour de Jésus, car un jour, la souffrance disparaîtra totalement. Je vous cite ce texte de l'Apocalypse qui dit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau, Jésus, qui est au milieu du trône, prendra soin d'eux. Elle les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu, et ça j'aime le détail, essuiera toutes larmes de leurs yeux. » La croix, c'est une invitation à dire oui à celui qui a été vaincu par la souffrance et par la mort, par amour pour nous, mais qui est ressuscité, mais qui est vivant, et qui a triomphé du mal pour nous donner une nouvelle espérance. Je voudrais prier. Seigneur, nous savons le mal qui est dans notre monde et la souffrance qui est là. Parce que aucun n'est épargné. Nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre ces questions-là. Et tu sais combien cela peut être lourd dans nos cœurs. Moi, je te remercie parce que dans ce qu'il y a de terrible à vivre, toi, tu proposes un espoir, une espérance. Tu proposes un chemin avec toi. Tu proposes de donner ta paix. Tu proposes d'essuyer les larmes dès à présent. Et je te prie que nous te cherchions. Et tous nous avons besoin de toi. Et tous nous avons besoin de trouver cette paix avec toi dans les temps difficiles et de souffrance que nous pouvons vivre. Merci pour ta croix, ta résurrection qui nous permet de vivre dès à présent cette consolation. Amen.